Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est 9h40 sur France Inter et c'est un instant M raccourci en ce vendredi.
Vous êtes en direct, allez-y.
Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous comme chaque mois avec le médiateur des antennes de Radio France qui répercute vos questions sur notre antenne. D'ici là, un coup de cœur, chers amis, une bande dessinée publiée aux éditions des Arènes. L'histoire vraie et pourtant méconnue, pourtant oubliée du premier reporter français assassiné par les nazis en 1935. Il avait multiplié les voyages en Allemagne, il avait compris avant les autres, il avait publié articles et livres sur ce qu'il qualifiait déjà de tragédie brune.
L'instant M. Sonia de Villers, sur France Inter.
Bonjour Thomas Cadenne.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, vous êtes Merci. Le scénariste, l'auteur de cette bande dessinée publiée aux Arènes. Votre dessinateur s'appelle Christophe Gauthier. Vous racontez ensemble le reportage de Xavier de Hautelock, donc ce journaliste français qui est mort empoisonné en 1935. À la fin de ce roman graphique, je le précise, on peut lire les premiers chapitres du texte original de ce journaliste. Je vais essayer de vous en lire un extrait tout à l'heure parce que c'est magnifiquement écrit. C'est d'une modernité absolument incroyable. Et les éditions des Arènes proposent par ailleurs une version intégrale de ce texte original.
Ouais.
Voilà, en numérique. Un petit mot d'abord parce que on est vendredi et qu'on n'oublie pas votre Madeleine du vendredi. Toujours la même adresse mail. l'instantm@radiofrance.com. Alors ce matin, je vous offre deux cadeaux. Pour le premier arrivé, pour le premier qui a la bonne réponse, l'histoire en DVD de la comédie musicale Air, que j'adore, absolument que j'adore, voilà. Et pour le deuxième sur la liste, eh ben je vous offre un exemplaire de la BD dont on vous parle ce matin, La tragédie brune, parue aux Arènes. Donc, voici la question du jour. 18 février 1976, que venait-il de se passer? Quelle affaire pousse Roger Gicquel à ouvrir son JT ainsi?
La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement.
Quelle affaire faisait peur à la France en février 1976? L'instant M à radiofrance.com. Deux cadeaux, deux gagnants ce matin. Thomas Cadenne, vous aviez déjà collaboré avec Christophe Gauthier, qui est donc le dessinateur qui signe cette BD, La tragédie brune, parue aux Arènes. Votre bande dessinée, je le précise, est dédiée aux journalistes assassinés ou emprisonnés par des régimes autoritaires l'année dernière, qui était l'année pendant laquelle vous conceviez ce roman graphique. Alors c'est l'histoire de Xavier de Hautelock, dont on a évidemment oublié le nom aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très intéressant de lui redonner vie. On le découvre d'abord, ce journaliste, à la rédaction du journal Gringoire.
Oui, un journal qui, par la suite, pendant la guerre, est devenu, on va dire, oui, je pense que c'était une sorte d'organe collaborationniste.
C'est ça, exactement. Voilà. Qui, à l'époque, se présente, on le voit sur une de vos planches, hein, comme grand hebdomadaire parisien politique et littéraire. Xavier de Hautelock est un journaliste éminemment cultivé et germanophile. Il a déjà effectué, quand commence la bande dessinée, plusieurs reportages en Allemagne.
Ah oui, il connaît bien l'Allemagne. Il y a beaucoup de contacts dans un petit peu tous les milieux. Il a effectivement fait des reportages, des livres. Mm-hmm. Et malgré son histoire personnelle, parce que on est quand même dans l'entre-deux-guerres, et son père et son frère sont morts pendant la première guerre mondiale.
Et dans laquelle il s'est engagé volontairement.
Dans laquelle lui-même s'est engagé, ouais. Et pour laquelle il a été décoré.
Ouais.
Ça ne l'a pas empêché de rester amoureux de la culture allemande et de ce pays.
C'est ça.
Et c'est aussi pour ça, et notamment avec ce biais-là, on va dire, qu'il s'est rendu en Allemagne parce que, d'un point de vue presque personnel, je dirais, c'est un pays qui l'intéresse.
C'est un pays qui l'intéresse. Alors, quand il y retourne, justement, quand le rédacteur en chef de Gringoire l'y renvoie, avec une mission de reportage, on lui fait très vite comprendre que quelque chose a changé, que l'Allemagne a basculé, que ses sources ne lui parleront plus. Voilà. Ça commence comme ça. Une vaste méfiance.
Et d'autant plus impressionnante qu'il y était allé quelques mois avant.
C'est ça.
Voilà. Et en quelques mois, il décrit en fait une situation qui bascule complètement. On est au moment du plébiscite hitlérien en fait. Mm-hmm. On est en fin 33. Et c'est le moment où, c'est un de ces moments où on peut dire, je pense, où tout bascule d'une certaine manière d'un point de vue politique et idéologique. C'est-à-dire que lui, il se rend compte et il décrit et il témoigne finalement de ceux dont on se rendait pas nécessairement compte à l'époque, ou en tout cas de ce dont on voulait peut-être pas se rendre compte à l'époque, c'est-à-dire du fait que là où des voix dissidentes ou divergentes pouvaient être entendues quelques mois avant, en quelques mois, par des formes diverses et variées de terreur ou de chantage, on va dire, politique, ou
globalement de terreur.
Il n'y a plus d'opposants, ça n'existe plus.
Et vous le faites raconter des conversations avec différents Allemands, mais surtout des conversations entendues dans les boulangeries, dans les bistrots, dans les restaurants où on sent cette pression plus en plus aiguë.
Et alors, là, il y a deux choses qui vont ensemble. D'une part, ce qu'il décrit, c'est cette incapacité à entendre une autre voix que la voix officielle, on va dire. Donc, tous les gens qui pouvaient être divergents sont, soit quand ils lui parlent sous le sceau du secret, de manière, avec une terrible angoisse, soit, il lui parle tout simplement plus. Et par ailleurs, ce qu'il décrit, c'est aussi la libération de l'autre parole. C'est-à-dire que là où avant il y avait deux paroles qui s'entrechoquaient, la parole de nazi, on va dire, ou hitlérienne, face aux paroles communistes de diverses oppositions qui pouvaient y avoir à l'époque. Là, il décrit que la libération complète de la parole de hitlérienne, et surtout qui ne rencontre plus aucune opposition.
Voilà, plus aucun frein. Alors, il y a ce déclencheur, il lui faut aller voir les camps. Et l'un de ses contacts lui dit « Ne fais pas comme ces reporters, je cite votre bande dessinée, qui se sont prêtés en caravane escortée à une comédie de reportage dans un Dachau préparé pour l'occasion. Il faut chercher la réalité derrière les barbelés. » Donc vous et votre co-auteur, Thomas Kaden, vous avez fait ce voyage pour préparer la bande dessinée. Vous avez en fait refait le voyage que Xavier Hautelocq a fait en 1933.
Oui, on a eu cette chance-là de pouvoir aller voir. Et ce qu'on a vu, c'est déjà, on a vu le résultat d'une certaine manière de ce qu'il craint et redoute et annonce, parce qu'au-delà de la crainte, pour lui, il y a assez peu de doutes sur le fait que l'Allemagne veut la guerre et ira à la guerre. On est quand même quelques années avant. Et on a vu donc Berlin qui ressemble plus beaucoup, voire plus du tout à ce que ça a pu être, à part dans certaines rues ou certains quartiers. On a vu les petites villes qui, elles, n'ont pas beaucoup changé, et on a vu enfin Dachau, qui est le Dachau le Dachau du pire, mais dans lequel on a pu apprendre et confirmer, parce que moi j'avoue, je suis pas historien et que je l'ignorais, que l'année 34, c'est l'année où il y a eu le plus de camps, en fait. C'est
D'ailleurs, il ne se rend pas Xavier de Hautelocq qu'à Dachau, il se rend également à Heuberg. Ouais. Et il le dit de toute façon dans la bande dessinée, pour découvrir le véritable visage du national-socialisme, ses effets profonds et durables, il faut aller dans les provinces les plus reculées d'Allemagne. Il fait ce qu'aucun journaliste n'a fait à l'époque. L'épilogue de votre roman graphique, c'est la publication de son texte, cette tragédie brune, aux éditions de la Nouvelle Revue critique dans la collection La Vie aujourd'hui, et son empoisonnement par les nazis que vous choisissez.
C'est le reportage de trop après.
C'est le reportage de trop, donc vous ne le mettez pas en scène.
Non, en fait après il y avait plusieurs choses, plusieurs thèmes. Il est retourné encore en Allemagne, il a encore enquêté. Il est allé notamment à la Gestapo dans une scène assez sidérante où d'un point de vue de scénario c'est presque insupportable parce qu'il ne lui arrive rien, c'est-à-dire qu'il arrive à l'heure du déjeuner et il se retrouve à pouvoir quasiment visiter toute la Gestapo parce que tout le monde est plus ou moins absent, en pause on va dire. Il y a ce côté administratif un peu terrifiant, on est dans une entreprise de monstruosité et finalement il se retrouve dans des bureaux, quoi. C'est la bureaucratie du monstre et bref, voilà. Donc c'est après ce reportage-là que les Allemands vont dire assez.
Voilà, je vous invite à lire La tragédie brune qui paraît aux arènes et à lire le texte de Xavier de Hautelocq qui est écrit d'une modernité. C'est absolument incroyable comme journaliste. On est au début des années 30 et il utilise le « je ». Voilà, donc je l'offre à Christophe, j'offre à Fabrice le DVD sur la comédie R. Bravo à vous tous. Il fallait deviner évidemment l'affaire Patrick-Henri-Philippe Bertrand qui terrorisait la France en 1976. Merci à toute l'équipe de l'Instant M et je laisse ma place à Bruno Donas, notre médiateur.